Libre Radio à la féerie d'une nuit. Sous les étoiles, Libre Radio www.libradio.org. La radio qui ne craint ni le ciel, ni la terre, Libre Radio, la radio qui ne craint même pas la peur.
Programme intégral de la féerie d'une nuit au signal de bougie, sur www.féeriedunenuit.ch.
Voilà, nous voilà de retour depuis donc le site de la 15e édition de la Féerie d'une nuit. Donc la Féerie d'une nuit, c'est une journée, une soirée qui court jusqu'à 2h du matin et qui dont la posture et les dessins sont d'observer le ciel à l'affût des cette année des Perséides. Donc ce sera a priori une pluie d'étoiles filantes qui vont nous passer sur le ciel. Bonjour Sarah.
Allô,
bonjour. Est-ce que Sarah, vous m'entendez?
Bonjour.
Alors,
oui, je vous entends bien.
Ah, super, super. Alors, je vais rapidement introduire ce sujet, hein, puisque nous sortons un petit peu de notre thème du jour, hein, qui était celui justement sur les étoiles. Nous sommes à l'antenne avec, en compagnie de Sarah Katz. Bienvenue à vous, Sarah. Est-ce que vous nous entendez toujours ?
Bonjour.
Oui, super. Alors, très bien. Alors, je vais juste faire une petite intro. Donc, le retour de Sarah Katz de vous-même à Marseille a été salué en gare Saint-Charles le 3 août. Après 4 jours d'incarcération à la prison de Givonne à Ramelais, donc vous qui êtes militante à l'Union juive française pour la paix, êtes rentrée ce jeudi en France et des soutiens sont venus vous accueillir en gare de Saint-Charles à Marseille. Vous étiez sur le premier bateau de la flottille de la liberté, la 6e flottille de la liberté, qui était partie de Scandinavie le 15 mai dernier, le Al-Aouda, donc le retour en arabe, sur lequel vous vous trouviez, eh bien, a été intercepté le dimanche par la marine israélienne. Alors on est déjà ravis de vous savoir de retour à la maison, après ces 4 jours d'incarcération.
Merci.
Et oui. Et alors nous avions à l'époque parlé avec, il y a de cela maintenant 2 semaines, avec Claude pour justement expliquer ce qu'était que cette 6e, hein, parce que c'est bien ça, c'est la 6e flottille, la 6e expédition.
Oui, oui, c'est ça. Oui, oui.
Alors peut-être voudriez-vous recontextualiser la chose. Donc ces bateaux sont partis, donc il s'agissait de 3 bateaux qui sont partis en direction depuis la Scandinavie et en direction de la bande de Gaza, pour essayer de briser le blocus et l'isolement qui a cours depuis 12 ans de la bande de Gaza.
En effet. Alors, en réalité, ce sont 4 bateaux qui sont partis. Celui sur lequel j'étais, le Al-Aouda, qui est bateau pavillon norvégien. Et puis, 3 voiliers suédois, un assez grand voilier, le Freedom, magnifique, et 2 tout petits voiliers, le Palestine et le Mered. Malheureusement, l'un comme l'autre ont dû s'arrêter à Palerme avant la dernière étape sur des questions soit d'équipage, soit d'avarie. Et finalement, donc, la dernière partie, la traversée de la Méditerranée, pour cette flottille 2018, elle a été effectuée par 2 navires, le Al-Aouda et le Freedom.
D'accord, qui ont tous les deux, comme on l'a entendu, été arraisonnés le premier. C'était donc justement le dimanche et le deuxième 2 jours après.
Voilà. Alors, on espérait beaucoup, enfin, on savait politiquement que le rapport de force n'était pas encore suffisamment en faveur des flottilles pour passer. On espérait quand même beaucoup passer, d'une part parce que c'était infiniment souhaité par les amis de Gaza, qui sont dans une situation absolument épouvantable, bien, bien pire que les dernières années, et donc pour lequel c'était comme un espèce de bouffée d'oxygène. Et puis aussi parce que depuis le temps qu'il y a des flottilles, jamais, jamais, tous les bateaux ont été arraisonnés, jamais, jamais on a trouvé sur les bateaux autre chose que nous, organisateurs des flottilles, déclarons qu'il y a. Et cette fois-ci, sur la flottille, dans le Al-Aouda et le Freedom, il y avait des équipements de santé, des médicaments, du matériel comme des compresses, des choses comme ça. Donc, on espérait un petit peu qu'il y aurait une fenêtre et qu'on pourrait rentrer. Ça n'a pas été le cas. Israël se comporte comme s'il était le maître du monde, exactement, puisqu'il s'autorise cette piraterie en eau internationale et qu'il n'y a pas une plainte sérieuse de la part des pays environnants.
Voilà, alors effectivement, vous venez de le dire et on l'avait rappelé également au moment de la première interview, il s'agit bien d'un piratage, hein, puisque c'est en pleine eau internationale que les bateaux ont été arraisonnés.
Absolument. Souvent, nous, militants, d'utiliser des mots trop forts, mais il y a une définition de la piraterie. Et la piraterie, ça consiste à agir en eau internationale sans aucun mandat. Et voilà, c'est de la pure piraterie. C'est reconnu d'ailleurs. Ce qu'il y a d'extraordinaire et de terrible, c'est que les actes actuels du gouvernement israélien, ils ne sont pas cachés. Ils agissent en toute impunité, au vu et au su de tous. Ce qui quelque part trace la responsabilité des populations civiles. C'est pour ça qu'elles existent, les flottilles. Quelquefois, on trouve qu'on exagère un peu, quoi. On insiste lourdement. Parce que c'est des grosses opérations, hein, en temps, en courage, en énergie, en argent. Mais voilà, si on s'habitue à l'idée qu'un pays peut décider pour d'autres populations ce qui est des questions de vie ou de mort, alors c'est la fin de l'espoir d'une humanité qui ait sens.
Alors effectivement, il y a beaucoup, cela pose beaucoup de questions sur effectivement cette impunité, dont bénéficie l'État d'Israël et son armée, sa marine. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette disproportion entre une coalition de la flottille dont on rappelle qu'elle est purement pacifiste et cette disproportion avec des moyens militaires incroyables qui sont engagés envers des pacifistes qui viennent amener des médicaments qui plus est?
Exactement. Ce que vous dites est vraiment très, très clair. Les flottilles ont toujours défendu l'idée d'une action non violente. Et lorsque nous étions à Palerme, nous avons retravaillé sur cette question de la non-violence pour être sûr qu'on comprenait bien ce qu'on faisait. Donc, on a, je parle du bateau sur lequel j'étais, nous étions 22, 14 nationalités, tous entraînés. Action non violente et bien décidée à suivre cette voie. Nous connaissions le bateau, nous connaissions le contenu de ses cales, donc qui était du matériel médical, dont, entre parenthèses, je m'en profite de le dire, si on veut qu'il arrive à Gaza, il faut que l'ensemble des gens un peu sensibilisés l'exigent, sinon il va pourrir quelque part dans un hangar. Voilà, et à côté de ça, on nous envoie, c'est incroyable à décrire, on nous a envoyé deux énormes bateaux de guerre. Ils étaient très très gros, ils étaient sur l'horizon, ils encadraient le Al-Aouda, et de ce bateau a jailli 7-8 grands bateaux semi-rigides qui sont arrivés en hurlant. Enfin, c'est juste comme dans un film, quoi. Et qui ont envahi le bateau et qui ont tabassé l'équipage.
Et alors justement, pouvez-vous nous faire un petit peu le récit de comment s'est passé cet épisode ? C'est-à-dire que les gens ont clairement envahi le bateau, comment ça s'est passé ? Ensuite, on vous a amené directement en prison. Enfin, comment ça s'est... Voilà, le déroulé.
Alors, ils nous ont attaqué, quand on dit en eau internationale, c'était très confortablement en eau internationale, on était encore à quelques 40 000 des côtes, ce qui veut dire qu'une fois qu'ils se sont rendus maîtres du bateau, il a fallu des heures, des heures et des heures. Je crois qu'ils ont attaqué le bateau vers 14 heures et ils ont arrimé dans la zone militaire du port d'Ashdod le bateau. Il était 8 heures le soir, donc mais avant qu'on arrive à ce temps où ils sont maîtres du bateau et c'est eux qui dirigent. Oui, ça se passe comme ça. Ils envoient, c'est comme des commandos, si vous voulez, comme des Robocop, tous, avec un masque sur la figure. Nous, on était tous rassemblés sur le pont supérieur parce qu'on voulait rendre extrêmement visible le fait qu'on n'avait pas d'armes, qu'on ne combattrait pas. Donc on était tous sur le pont supérieur, ils ont jailli sur le pont supérieur, ils ont attrapé les uns et les autres. Ça se passe, je ne sais pas si les militants, c'est les gens qui ont l'habitude de manifester, qui ont déjà connu des manifestations un peu chaudes, ça se passe un peu comme ça, quoi. Ils se précipitent, ils font des clés, ils te mettent à terre, ils te tirent vers l'arrière du bateau où ils ont décidé qu'ils nous entassaient. Voilà, donc ça se passe très vite. Et puis après, ils veulent être maîtres du bateau et l'équipage avait décidé qu'ils ne remettraient pas en route Sur le thème, vous avez pris le bateau, maintenant vous en êtes responsable, débrouillez-vous. Nous, on ne s'oppose pas de manière violente, mais on ne va quand même pas vous aider. Mmh. Et là, ils ont tabassé. Ils ont passé au choc électrique, au taser. Moi, j'ai vu de mes yeux, vu ça, je peux en témoigner à la radio. Notre très jeune capitaine, dont la tête était heurtée avec beaucoup de force répétitivement contre le coin de la cabine de pilotage. Bon, jusqu'à ce qu'ils obtiennent que l'ingénieur remette en route le bateau. Voilà, à partir de ce moment-là, ce qui est le plus visible, alors c'est plus du tout les gros bras qui tabassent, c'est une bonne dizaine, je dirais, de toutes jeunes femmes, toutes jeunes filles, en uniforme collant, très sexy, très gentille, avec des sourires jusqu'aux oreilles, et qui nous demandent « est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que vous voulez de l'eau ? Est-ce que vous voulez des fruits ?» Enfin, une opération séduction complètement imbécile, qui commence alors qu'ils n'ont même pas fini de se rendre maître. C'est-à-dire que moi, quand j'entends la jeune femme me demander si je veux de l'eau, j'entends crier les copains sous le taser. On est dans un monde qui n'a aucun sens, quoi. Aucun sens. Et évidemment, ils ont tous sur le front une caméra, et on comprend bien que ce qu'ils veulent capter, c'est des gestes de soumission, voire de fraternisation. Bon, ça, on ne leur a pas offert. Hein.
Oui. Et alors, ensuite, comment ça se passe ? Une fois arrivé à terre, on vous mène aux prisons ?
Alors, ils nous emmènent dans le militaire fermé. Et dans cette zone militaire fermée, il y a un endroit complètement kafkaïen qui est les bureaux, mais c'est très grand, c'est comme un énorme hangar avec toutes sortes à l'intérieur de petites cases, qui est le bureau de l'office d'immigration. Ça, c'est peut-être intéressant à savoir hein, pour les auditeurs. On est dans un système où certaines administrations semblent avoir un pouvoir absolu. En tout cas, ça se passe comme ça dans l'État d'Israël. Et donc, l'office d'immigration est entièrement maître de ce qu'il va faire. Il a 72 heures où il n'a de compte à rendre à personne. Non seulement pas à la communauté internationale, mais même pas à son propre système judiciaire. Et donc, on entre dans cette espèce de monde clos, fouille au corps, très, 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 très habile, très, très serré, plusieurs de suite, interrogatoire. Personnellement, moi, j'ai refusé de répondre. J'ai dit que j'étais pas là par ma volonté et que donc je ne vois pas pourquoi je leur donnerais des informations. Et ça dure, ça dure, ça dure. On a dû s'arrimer vers 8 heures. Moi, j'arrive en prison, il est 5 heures du matin. Est un peu, ils ont jeté toutes les affaires en vrac par terre, il faut dans le noir essayer de retrouver les siennes, enfin, toute une série de petites et de grandes humiliations, et là encore, comme sur le bateau, accompagnée d'une politique de séduction. Dès qu'on avait un bobo, ils nous prenaient à part, venez, on vous emmène à l'hôpital. Moi, je m'étais écorché un doigt, j'ai dit non, je n'irai pas à l'hôpital, d'abord j'ai aucune confiance en vous, et puis voilà. Mais ils m'ont demandé, trois fois, ils m'ont mené jusqu'à la porte en me disant « on y va ». Comme si c'était important dans leur statistique de dire « on a accueilli des gens, mais on les a soignés, voyons ». Voilà. Voilà. Donc, au petit matin, on se retrouve en prison, qui est une prison qui doit malheureusement ressembler à beaucoup des prisons européennes.
Hein. D'accord. Et alors, quand vous êtes incarcéré, sur place, est-ce que vous sentez un soutien quand même, au moins d'une certaine frange de la société civile israélienne ? Est-ce qu'une mobilisation à court ou pas du tout ?
Nous, on savait, hein, parce qu'on est en lien avec le mouvement anticolonialiste israélien, que je tiens à saluer ici, à votre antenne. Ce sont vraiment des gens qui ont un courage fou, hein, parce qu'ils se battent à l'envers de l'ambiance du temps. Je me souviens d'une jeune anticolonialiste qui disait « Vous, quand vous êtes en Europe et vous vous battez contre certaines politiques de vos gouvernements, bon, vous vous battez contre votre gouvernement. Mais nous, on se bat contre l'air qu'on respire. » Et c'est tout à fait ça. Donc, on savait tout ça. Mais le propre d'être en prison, et c'est à ça qu'elle sert la prison, c'est que vous ne savez rien immédiatement. Vous êtes retiré du monde. Vous n'avez contact qu'avec les matons qui hurlent tout le temps. Enfin, ça se passe. Moi, je me suis retrouvée comme dans des films, quoi. C'était ma première expérience de prison. Je connaissais un peu les commissariats de police pour faire de manifestations, mais la prison, je connaissais pas. Ça se passe exactement comme on voit dans les séries, quoi. Les portes qui claquent, les gens qui hurlent, les petites humiliations. Vous avez droit à ci, mais pas à ça. Vous avez droit. Vous aurez du papier water quand on décidera que vous en avez. Enfin. Voilà. Donc, on ne sait rien. On n'a pas d'informations. La seule lien avec l'extérieur, c'est les avocats. Et ça, il faut rendre hommage aux deux cabinets d'avocats qui soutiennent les flottilles. Ils ont un courage fou. Ils sont eux aussi soumis à toutes sortes d'humiliations. Quand mon avocate est enfin parvenue jusqu'à moi, j'ai pincé un peu le nez en disant « Oh, il est déjà tard ». Elle me dit « Ça fait 2 heures, hein, 2 heures qu'on tape à la porte pour pouvoir rentrer ». Donc voilà. Donc le seul contact avec l'extérieur, c'est les avocats, et heureusement que ces cabinets d'avocats existent.
D'accord. Écoutez, comment ça se passe ensuite ? Alors vous êtes resté 4 jours. Est-ce que ça a été un petit peu le même régime pour tout le monde ? Et puis au moment où on ressort de prison ?
Oui. Curieusement, c'est le même régime pour tout le monde, quelles que soient nos attitudes. Alors, quand on arrive à la prison, il faut déjà voir que, ça je voudrais le dire aussi parce que c'est une, vous voyez, vous entendez mon émotion, c'est tout chaud dans ma tête. On arrive et la première chose qu'on fait quand on a parcouru 2 mètres sur le sol, ils vous mettent un bracelet avec un numéro. Alors, je veux pas faire des rapports un peu rapides, mais quand même, c'est comment incroyable. Peut-on oser, quoi? Donc, on est bracelettés avec notre numéro. Et puis, on nous fait signer un papier comme quoi on accepte notre déportation. C'est en anglais, déportation. Comment peuvent-ils oser manier ces mots-là, quoi? Ils ne savent rien. Les gens qu'on a devant nous ne savent rien. Rien de l'histoire, rien du tout, rien du tout. Ça ne les touche pas du tout. Donc, on est devant un papier où on doit dire qu'on demande notre déportation. J'ai évidemment pas demandé ma déportation. Certains copains l'ont demandé parce qu'ils avaient des raisons d'essayer de rentrer le plus vite possible. Ça n'a rien changé. On est évacué dans les 72 heures. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 72 heures, l'office d'immigration doit rendre compte à son propre système judiciaire et ça, il veut pas. Donc voilà, on est tous évacués dans ce laps de temps.
Ouais, on sent bien qu'il y a la volonté de tendre un piège et voilà, c'est un vrai traquenard et que tout est fait pour justement piéger les personnes. Mais que pensez-vous du signe que cela donne ? Parce que finalement, on le disait déjà avec Claude la semaine passée, n'est-ce pas là de se tirer une balle dans le pied en quelque sorte, cette disproportion des moyens engagés et cette manière de faire ? Est-ce que, au vu justement avec vos témoignages, est-ce que la communauté internationale, à un moment donné, ne sera pas, comment dire, contrainte de réagir à ça et de dire « c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça encore une fois ».
Écoutez, on est la 6e flottille. On arrive juste après le vote d'une loi invraisemblable.
Absolument.
Invraisemblable, dont vous ne pensez pas que c'était possible, et qui déclare que oui, en Israël, ceux de confession juive ont plus de droits que les autres. On ne croirait pas que ce soit possible. Ça a été voté. Est-ce que vous avez vu l'Europe dire dans ces conditions on rompt les rapports économiques, on rompt les rapports diplomatiques ? Pas du tout, pas du tout. On voit sous nos yeux en 2018, s'installer une loi d'apartheid directe, pas cachée, directe, et l'Europe ne bouge pas. Je ne vous parle pas des USA de Trump. Alors, penser que de soi-même, parce qu'ils se permettent cela, la communauté ou quelque chose va bouger, moi je ne crois pas. Je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est le contraire. Je suis très pessimiste. Moi, je crois qu'Israël, c'est le ballon d'essai de la contrainte sur les sociétés civiles. Et que si nous, sociétés civiles, on ne bouscule pas, mais beaucoup plus sévèrement qu'on l'a fait jusqu'ici, nos propres gouvernants, ce qui se passe là-bas, eh ben, on va le subir ici. Moi, je verrais ça plutôt comme ça.
D'accord. Et dites-moi, Sarah Katz, ne pensez-vous pas que peut-être un des moyens de pression serait de changer de degré ? Ce que je veux dire par là, c'est que nous avions parlé avec Claude également de la lettre pour le président Macron, qui était resté évidemment lettre morte. Mais j'aurais envie de peut-être, confirmeriez-vous ce que je vais dire, de saluer les mots du maire de Palerme, qui, si j'ai bien compris, a déclaré pour nous, vous êtes désormais des palermitains, comme tous les palermitaines et palermitains qui sont là.
Oui,
Est-ce que c'est plutôt à un niveau justement des maires de tous ces pays-là qu'il faudrait qu'une résistance serait possible? Qu'en pensez-vous?
Je vous suivrai complètement là-dessus. Je suis parisienne, hein. J'avais assisté à cette scène honteuse de la brigade fluviale de Paris, à côté sur les tout petits voiliers de la flottille pour les empêcher de s'accoster. Le contraste avec ce qui s'est passé à Palerme est formidable. Le maire de Palerme se déplace à l'arrivée du Al Aouda. Il se déplace accompagné des armes, si j'ose dire, de sa ville, c'est-à-dire les espèces de drapeaux officiels, quoi. Oui. Et il monte à bord du Al Aouda et il déclare: toute personne qui est arrivée à Palerme, qu'elle soit là depuis 1000 ans ou qu'elle soit là depuis 1 heure, elle est palermoise. C'était juste magnifique. Oui, je pense que la réponse, elle viendra des sociétés civiles et en particulier, probablement, de cette organisation qui est une organisation de la démocratie et qui sont les municipalités, les collectivités locales. J'y crois beaucoup, mais le chemin est grand, le chemin est grand. Pour un Palerme, au monde, il y a combien de villes qui ferment les yeux.
Ouais, c'est vrai. Alors dites-moi, maintenant vous êtes de retour à la maison, vous et tous les membres des deux équipages. Alors qu'est-ce que vous allez maintenant faire? J'imagine qu'il y a un temps où il faut se remettre un peu de l'état de choc qui s'est produit. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez pouvoir témoigner? Est-ce que des personnes vont pouvoir vous rencontrer?
Chacun va faire un peu comme c'était une des belles choses que je veux dire de la flottille, hein, et en particulier du Al Aouda. On était 22, chacun suivait avec ses propres positions, avec les raisons pour lesquelles il était là, qui pouvaient être assez variées. Il y avait des syndicalistes, il y avait des féministes, il y avait des gens engagés politiquement, enfin il y avait de tout, des gens engagés artistiquement. Et donc c'était un peu comme ça. Chacun va faire comme il le sent le mieux, comme il est le plus possible. Je fais partie avec quelques-uns d'un petit groupe qui veut porter plainte en Israël contre le gouvernement d'Israël.
Alors, pardon, on a eu un...
D'accord, ouais,
on a
eu... D'accord, je ne bouge pas.
C'est tout, bon, votre dernière phrase était inaudible, celle où vous disiez que vous alliez porter plainte en Israël.
Donc je disais qu'on était décidé à porter plainte et à déblayer le chemin juridique. Pour ça, ça va demander qu'il y ait un cabinet d'avocats qui ait le courage de s'y coller. Mais le chemin juridique, puisque comme vous le soulignez très bien, on est complètement en dehors, et complètement en dehors de toute légalité, voilà, on veut le tenter. C'est une des choses qu'on veut tenter.
D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages. J'aurais envie de vous poser encore une dernière question et puis ensuite, nous vous laisserons parce qu'on va également entendre le témoignage de Pascal qui était, lui, sur le Freedom.
Oui, bien sûr.
Alors, cette dernière question était la suivante. Lors de toutes ces escales que vous avez pu mener pour aller jusqu'aux eaux territoriales où vous avez été assailli, quelle réponse, qu'avez-vous vu le long du chemin du côté justement de la société civile? Est-ce que l'on peut dire qu'il y a eu un soutien indéfectible des peuples, à l'inverse du silence assourdissant des autorités? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous avez pu observer tout au long de ces escales et de votre cheminement?
Alors vraiment, ça doit dépendre des pays. Hein. Moi, je n'ai connu que l'escale en France des gens qui se lèvent, qui considèrent que le droit des Palestiniens, c'est quelque chose d'important pour toute l'humanité. Mais ils sont encore une minorité. Ils sont incontestablement une minorité. Donc, on a fait de belles escales, mais voilà, si on pouvait multiplier par 100, par 1000 le nombre de personnes présentes, on changerait la face des choses. Et pour l'instant, on n'y est pas.
Et alors, que pensez-vous de la manière dont les personnes pourraient venir en aide dans cette situation-là? Alors, c'est peut-être déjà le fait de se contre-informer, d'aller chercher les informations, et certainement que vous-même, parce que vous êtes également membre de l'Union juive pour la paix, et peut-être que voilà, oui. Ça, c'est une des ressources que l'on peut donner aux gens en disant, voilà, méfiez-vous des médias de masse en tout cas, et puis allez chercher l'information là où on la trouve, là où elle est critique. Et le site, par exemple, de l'Union juive pour la paix, on serait un.
Oui, tout à fait. Ça, je pousse beaucoup les auditeurs à aller le voir. Je crois qu'il est très bien fait. Je parle d'expérience puisque moi, quand je vais à Gaza, je ne suis pas membre encore de l'UJFE, et c'est en étant à Gaza, en vivant à Gaza et en lisant leur site que j'ai décidé d'adhérer. Donc, je crois que oui, mais il n'y a pas que le site de l'UJFE. L'AFPS est très présente. International Solidarity Movement a une branche française qui s'appelle ISM France qui travaille très bien. Il y a une association qui s'appelle la CAPJIPO. Enfin, des associations, il y en a, moi, je pousserais les auditeurs à rejoindre un comité, quel qu'il soit, localement. Et à partir du local, on peut faire beaucoup de choses. Et, mais surtout, surtout, mon appel serait de rejoindre le BDS. On a peu d'armes dans les mains et le boycott des investissements sanctions, ce mouvement-là qui est né palestinien, lui, il engrange les succès et lui, il veut faire une différence. Donc j'appellerai beaucoup, beaucoup les auditeurs à rejoindre le mouvement BDS.
Eh ben, en tout cas, on s'allie à vous pour dire ça parce que c'est des camarades par ailleurs et qu'on les reçoit régulièrement ici à la radio, BDS Genève, donc c'est très
bravo,
bien comme ça.
Bravo.
Merci, en tout cas, merci beaucoup Sarah Katz. On va s'en arrêter là, à moins qu'une question parmi notre public surgisse, non ? On va s'arrêter là en vous remerciant énormément de votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie.
Ben voilà,
bravo pour votre travail.
Et puis on se tiendra de toute façon en alerte de tout ce qui continuera de se passer. Merci Sarah. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Au revoir. Voilà. Alors de notre côté, eh bien, petite pause, petit jingle, ou bien est-ce qu'on y va directement avec directement, c'est ça ? Non. Pardon. Une petite pause et puis juste derrière, eh bien, nous allons parler avec Pascal Moriera qui lui était à bord du Freedom, le deuxième bateau de la flottille. Pour de la flottille de la liberté à pour Gaza, pardon. Oh là là. Allez, petite pause et on revient juste derrière.